Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 3. Près du village de Weydon Priors, la grande route avait à nouveau son tapis de poussière. Comme autrefois, la verdure avait repris son aspect terni, et sur le chemin où nous avons vu marcher trois membres de la famille Henchard, s'avançaient maintenant deux personnes qui n'étaient pas sans lien avec cette famille. L'aspect général des choses avait si bien gardé son caractère, le vacarme tombé de la dune voisine était si pareil que l'on aurait pu se croire au lendemain de la scène précédente. C'est dans les détails seulement que l'on pouvait observer des modifications, mais ces changements suffisaient à dire la longue suite des années écoulées. Des deux femmes qui marchaient sur la route, l'une était celle qui était arrivée autrefois à ce même endroit, comme la jeune compagne d'Henchard. Les lignes de son visage avaient perdu de leur plénitude, le tissu de sa peau s'était modifié, et si ses cheveux n'avaient pas changé de couleur, ils s'étaient considérablement éclaircis. Elle portait des vêtements de veuve. En noir aussi, sa compagne était une belle jeune fille de 18 ans, tout imprégnée de cette essence éphémère et précieuse de la jeunesse, qui est à elle seule une beauté, en dehors de toute considération de traits et de couleurs. Il suffisait d'un coup d'œil pour reconnaître dans la fraîche adolescente la fille de Suzanne Henchard. Les atteintes de la vie avaient durci le visage de la mère, mais le temps, en reportant adroitement sur celui de la fille son charme printanier d'autrefois, en avait fait une si parfaite réplique qu'à l'observateur attentif, l'ignorance par l'une des secrets enfermés dans le cœur de l'autre serait un instant apparue comme une imperfection singulière dans la puissance de continuité de la nature. Les deux femmes se donnaient la main en marchant, en un geste de simple tendresse. Dans leurs mains libres, elles portaient, la fille, un panier de forme désuète, la mère, un paquet bleu, dont la couleur tranchait singulièrement sur sa robe noire. Arrivées aux confins du village, elles prirent, comme la première fois, le chemin qui menait au champ de foire. Là aussi, le passage des années se faisait sentir. Manèges et balançoires comportaient des perfectionnements mécaniques que l'on remarquait aussi dans les bascules, les machines à éprouver la force des bras et les baraques de tir aux noix. Mais l'importance de la foire s'était fort amoindrie. Les grands marchés périodiques, nouvellement ouverts dans les villes voisines, avaient une influence sur les petits négoces établis là depuis des siècles. Enclos à moutons et parcs à chevaux avaient à peine la moitié de leur dimension primitive. Les boutiques de tailleurs, de tonneliers, de bonnetiers, de drapiers et autres artisans avaient presque disparu et les véhicules étaient beaucoup moins nombreux. La mère et la fille se frayèrent un chemin dans la foule et parvinrent au milieu du champ de foire où elles restèrent un instant sans bouger. « Pourquoi perdre notre temps ici? Je croyais que tu voulais aller plus loin, » demanda la jeune fille. « Oui, ma chère Elizabeth Jane, mais j'avais une idée en faisant ce détour. » Laquelle? C'est ici même un jour de foire que j'ai rencontré Newson pour la première fois. Rencontrer mon père pour la première fois? C'est vrai, tu me l'as déjà dit, et maintenant le voici noyé, perdu, pour toujours, loin de nous. Et la jeune fille sortit une carte de sa poche pour la regarder en soupirant. Le papier bordé de noir, qui figurait une plaque murale, portait ces mots: à la chère mémoire de Richard Newson, marin, malheureusement mort en mer, en novembre 1840, à l'âge de 41 ans. « Et c'est ici aussi, continua la mère avec plus d'hésitation, que j'ai vu pour la dernière fois le parent que nous allons chercher, monsieur Michel Henchard. Quel est son degré exact de parenté avec nous, maman? Tu ne me l'as jamais expliqué clairement. C'est, ou c'était, car il est peut-être mort, « un parent par alliance, » répondit la mère d'un ton délibéré. « C'est ce que tu m'as dit 20 fois, » répliqua la jeune fille, en jetant autour d'elle un regard distrait. « Mais ce n'est pas un proche parent, je suppose. »« Oh non, pas du tout. »« Il était botteleur de foin, n'est-ce pas, la dernière fois que tu l'as vu ?»« En effet. »« Il n'a jamais dû me connaître, » continua ingénument Elizabeth. Mrs. Henchard hésita un instant, puis répondit sans assurance. « Bien entendu, Elizabeth Jane. Mais viens donc par là-bas. » Et elle se dirigeait vers un autre coin du champ de foire. « Il me paraît assez inutile de chercher ici les traces de quelqu'un, » s'écria la jeune fille en regardant autour d'elle. « Ces gens de foire changent comme les feuilles des arbres, et tu dois être aujourd'hui la seule qui se soit trouvée ici il y a tant d'années. »« Je n'en suis pas si sûre, » répondit Mrs. Newson, comme on l'appelait maintenant. Elle fixait un regard aigu sur un petit tertre vert situé à quelque distance. « Regarde là-bas. » La jeune fille tourna les yeux vers l'endroit désigné. L'objet que lui signalait sa mère était un support formé de trois bâtons fichés en terre qui soutenait une marmite à trois pieds au-dessus d'un feu rougeoyant. Une vieille femme hagarde, ridée, presque en haillons, se penchait sur le chaudron dont elle tournait le contenu avec une grosse cuillère en croassant d'une voix rauque. « Ici, l'on vend de la bonne fromentée !» C'était bien l'ancienne patronne de la tente, la femme jadis prospère et avenante sous le tablier blanc aux poches sonnantes de monnaie. Crasseuse aujourd'hui, sans boutique, sans table et sans banc, elle n'avait pour tout client que deux galopins au teint blême qui venaient lui demander « Pour un sou, s'il vous plaît, bien pesé !» Elle les servit dans deux bols de terre grossière, ébréchée et jaunâtre. « Elle était déjà ici dans ce temps-là, » expliqua Mrs. Newson, en faisant un pas dans la direction de la vieille. « Tu ne vas pas lui parler, ce n'est pas convenable !» supplia la jeune fille. « Je n'ai qu'un mot à lui dire. Tu peux rester ici, toi, Elizabeth Jane. » La jeune fille, qui n'était pas entêtée, se tourna vers une boutique de gravures en couleur et laissa sa mère se diriger vers le tertre. En voyant s'approcher Mrs. Henchard Newson, la vieille se hâta de lui faire des offres et lui servit avec plus d'empressement ses deux sous de fromentée qu'elle n'en montrait naguère pour une commande de 6 pence. Quand la soi-disant veuve eut pris le bol de pauvre bouillie claire qui remplaçait la succulente ripopée d'autrefois, la vieille sorcière ouvrit un petit panier placé derrière son feu et, jetant autour d'elle un regard prudent, proposa « Un soupçon de rhum avec ?»« Du rhum de contrebande, vous savez. Voyons, pour 4 sous. Ça fait couler la chose comme un cordial. » La femme sourit amèrement au rappel de cette vieille coutume et secoua la tête avec une expression dont la vieille ne pouvait comprendre la portée. Elle fit semblant d'avaler quelques bouchées de fromentée avec l'ustensile d'étain qu'on lui avait offert et tout en mangeant, dit doucement à la débitante « Vous avez connu des jours meilleurs ?»« Ah, madame, vous pouvez le dire !» soupira la vieille en ouvrant sans se faire prier les écluses de son cœur. Je me suis vue sur ce champ de foire, jeune fille, femme et veuve, depuis 39 ans, et j'ai su en un temps ce que c'était que remplir les plus riches estomacs du pays. Vous ne croirez peut-être pas, madame, que je possédais une belle tente pavillon qui était la plus grosse attraction de la foire. Personne ne serait venu, personne ne serait parti sans avoir goûté à la fromentée de Mrs. Goodenough. Je connaissais les goûts du clergé et des élégants, je connaissais les goûts des gens de la ville et ceux des campagnards, je connaissais jusqu'au goût des sales femelles éhontées. Mais le diable m'emporte, le monde n'a pas de mémoire, le commerce honnête ne rapporte rien, il n'y a de profit au jour d'aujourd'hui que pour les métiers véreux et clandestins. » Mrs. Newson regarda autour d'elle. Sa fille restait penchée sur la boutique lointaine. Alors sur un ton de mystère. « Vous rappelez-vous, » demanda-t-elle à la vieille, « la vente d'une femme par son mari, dans votre tente, il y a 18 ans aujourd'hui. » La vieille femme réfléchit et secoua la tête.
« Si c'était une grosse affaire, je m'en serais souvenue tout de suite, » fit-elle. « Je me souviens de tout, les batteries entre mari et femme, les meurtres, les assassinats, les vols dans les poches même, au moins les plus sérieux dont j'ai pu être témoin, mais une vente ?» La chose s'est faite en douce, peut-être ?
Oh oui, je le crois bien. La débitante eut un nouveau hochement de tête.
Et pourtant, fit-elle, je me souviens de quelque chose. Au moins, il me semble revoir un homme qui concluait une affaire de ce genre, un homme en veste de velours avec un panier d'outils. Seulement Dieu vous bénisse, les scènes comme celle-là, on ne les garde pas dans la tête. La seule raison qui me fasse souvenir de cet homme-là, c'est qu'il est revenu à la foire l'année suivante et m'a dit en secret que si jamais une femme venait à le demander, il faudrait lui dire qu'il était installé à... Où cela ? À... Ah oui, à Casterbridge, qu'il a dit. Mais, Seigneur Dieu, je n'y aurais jamais repensé. »
Mrs. Newson eut volontiers témoigné sa gratitude à la vieille par un cadeau en rapport avec ses modestes ressources, mais elle se souvint que le rhum vendu sans scrupule à son mari avait été la cause première de sa chute. Elle remercia donc son informatrice et rejoignit Elizabeth Jane qui l'accueillit par ces mots. « Maman, je ne trouve guère convenable de te voir manger devant cette boutique où l'on n'aperçoit que des loqueteux. » « En tout cas, j'ai appris ce que je voulais savoir, » répondit tranquillement sa mère. « La dernière fois que notre parent est venu à la foire, il a dit qu'il vivait à Casterbridge. C'est loin, très loin d'ici, et il y a bien des années de cela. Mais je crois qu'il faut y aller tout de même. » Sur quoi, elles quittèrent la foire pour gagner le village, où elles trouvèrent un gîte pour la nuit.